Bonjour Isabelle, bonjour à toutes et à tous.
On débute avec l'élection du premier vice-président du syndicat d'énergie de la Corse du Sud qui est à refaire.
Le contrôle de l'égalité de la préfecture a en effet invalidé ce scrutin qui désignait donc le maire de Père-Xavier Lacombe au poste de premier vice-président. En cause, par Antoine Squarcini, un vote organisé à main levée le 27 mai dernier alors que les statuts du syndicat imposent un scrutin à bulletin secret.
Seul candidat en lice, le maire de Père y avait été élu premier vice-président du syndicat d'énergie de la Corse du Sud à main levée. Mais deux mois plus tard, le contrôle de l'égalité estime que cette procédure ne respecte pas les statuts du syndicat qui impose un vote à bulletin secret. Dans un courrier du préfet daté du 15 juillet et adressé au SDE, il est indiqué que cette élection est invalidée et doit être organisée à nouveau. Conséquence immédiate, le mandat de Xavier Lacombe prend fin. La direction du SDE confirme qu'une nouvelle élection sera organisée dès le mois de septembre. Contacté, Xavier Lacombe dit ne pas être surpris. Selon lui, le contrôle de l'égalité a pleinement exercé son rôle. Il rappelle que personne ne s'était opposé au vote à main levée le jour du scrutin et annonce qu'il sera de nouveau candidat en septembre. Un scrutin qui pourrait prendre une dimension plus politique si un autre candidat venait à se déclarer dans un contexte d'élection sénatoriale.
L'autre actualité de ce lundi, c'est un week-end tendu sur le front des incendies.
Le feu qui frappe les hauteurs de Bigoulia et Fouriagne a parcouru environ 160 hectares hier soir. Deux canadaires ont permis de contenir le feu sur cette zone tout l'après-midi. La baisse du vent en fin de journée a permis de stabiliser la situation. On fera un point en direct d'ailleurs dans le journal de 8h. Les habitants de Bigoulia ont tout de même été invités à rester chez eux. Sur le feu de Corté cette fois-ci, le dernier bilan dépasse les 950 hectares. Pierre, directeur du service incendie et secours de Haute-Corse, au micro de Paul-Joseph Bouladou.
Mais là, maintenant, l'avantage que l'on a, c'est qu'on a réussi à faire le tour. La difficulté de tous les jours que nous avons eu, là, c'est que toutes les nuits, ils repartaient, alors qu'on n'avait pas fini à faire le tour, puisque c'est un travail de titan, avec 230 personnels sur les crêtes, puisqu'on ne peut pas attaquer, il n'y a aucun accès par les moyens terrestres. Et en fait, les hélicos transportent des bacs que l'on pose en haut, et qui sans arrêt les remplissent pour que les hommes puissent mettre leurs tuyaux et aller éteindre en dessous. Donc c'est extrêmement dangereux. Et il faut toujours de la permanence de l'eau, sinon on peut pas y arriver. Donc c'est une technique de feu qui n'a rien à voir avec celle d'ici.
Qu'est-ce que vous entendez par faire le tour ?
Faire le tour, c'est-à-dire qu'on ceinture le feu, de façon à ce que soit les établissements en eau, soit les brûlages que l'on a fait, ne permettent plus au feu de pouvoir évoluer.
Des pompiers qui ont par ailleurs été impressionnés par le sang-froid d'un jeune homme.
Lucas De Witt, 17 ans, étudiant au Finosel, qui a immédiatement porté secours à une victime d'un accident de la circulation dont il était témoin. Présente au moment de l'accident, Yara est une amie de Lucas. Elle a assisté à toute la scène. Elle revient avec pas mal d'émotions sur le courage et le calme dont a fait preuve son amie. Elle est au micro de Patrice Roubaud.
Peur, elle est un peu angoissée. Bon, Lucas, j'ai vu qu'il a bien rassuré, mais de ma part, j'ai complètement commencé à péter les plombs parce que je savais pas quoi faire.
À paniquer.
Donc, Lucas, après, il a eu sa sensation d'appeler les pompiers. Et...
Qu'est-ce qu'il a fait, Lucas? Après, expliquez-nous.
Ben, écoutez, Lucas, il a été. Ce soir-là, c'était un héros. Il a pratiqué son massage de cardiaque, on va dire, hein, bouche à bouche.
Et vous l'avez vu reprendre connaissance, monsieur?
Je l'ai vu reprendre connaissance, mais c'est là que ça nous a soulagé, tout le monde autour de nous, hein, ils étaient un peu beaucoup plus soulagés. J'en parle souvent, ça me rassure, si un jour on a besoin de lui, il est là. Mais j'étais surtout fière de lui, mais d'un jeune de 17 ans que malheureusement il a perdu son papa il y a 3 mois, il était beaucoup courageux.
Lucas De Witt qui sera à 8h moins le quart l'invité de la rédaction d'RCFM.
Les interdictions de baignade se multiplient dans la vallée de la Gravonne.
Après coup, Tolikortiki, Atokar, Bouja, Epe, Rissé, Uchiani qui interdit l'accès à la rivière. En cause, une qualité de l'eau insuffisante sur plusieurs sites selon l'Agence régionale de santé. On ne connaît pas l'origine de la pollution, mais la situation varie selon les secteurs. À Bocognane, où la baignade reste autorisée. En aval, près de la Payotte Andrea, les contrôles sont conformes depuis le début de l'été. Un contraste qui suscite pas mal d'interrogations. Et malgré les arrêtés municipaux, on continue de se baigner. Reportage sur les berges de la Gravonne, a signé Patrice Roubaud.
Les arrêtés sont affichés sous le pont de Carbouch. Pourtant, cette famille n'avait pas connaissance de l'interdiction de baignade.
Vous n'avez pas vu les arrêtés?
Absolument pas. On est arrivé hier en bateau hier matin et mon gendre m'a dit qu'au pont de Carbouch, on pouvait se baigner sans problème. On prend le bain et c'est vous qui nous annoncez cet arrêté, quoi. On n'est pas au courant du tout, quoi.
C'est mon fils qui m'a dit, t'arrives à Uchiani, regarde si t'as le droit de te baigner. Parce que l'année dernière, il n'y avait pas eu le droit.
À Uchiani, les gendarmes effectuent régulièrement des contrôles pour faire respecter l'arrêté municipal.
Hier, il y avait la gendarmerie qui surveillait. Et il y a des gens qui se baignent.
baigner encore.
Ils bravent l'interdiction puisque les arrêtés au pont de Carbouche pour y passer deux fois par jour. Ils ont été arrachés, déchirés et jetés par terre.
Pas facile pour autant de résister à l'appel de l'eau lorsque les températures grimpent. Seule exception en aval, à la Payotte Andrea, où vacanciers et habitants peuvent encore se baigner. Sa responsable, Cindy Jordagne, fait réaliser tous les 15 jours des analyses de l'eau.
Mais bon, oui, indirectement, on est impacté, forcément. Quand on voit les gros titres, qu'on voit toutes les communes, c'est normal que les gens se posent la question, pourquoi eux non ? Je peux comprendre, je me mets à leur place. Et puis, ça met la pression. Vous avez les gens qui font qu'appeler, où on prend sur nous, effectivement, de faire des analyses régulières que l'on paye. Nous, on ne fait que suivre ce qu'on nous dit. Maintenant, si demain, on nous dit de fermer, on ferme, et puis c'est tout. On est bêtes et disciplinés.
Avec un débit de la Gravone qui diminue de jour en jour et une pollution dont l'origine reste inconnue, il est difficile d'envisager une levée des interdictions dans les prochaines semaines.
Enfin, en foot, un mot de l'équipe de France.
C'est demain que le président de la Fédération française de foot, Philippe Diallo, doit présenter le nouveau sélectionneur pour remplacer Didier Deschamps. Et si le nom du principal intéressé n'est pas officiellement inscrit sur les cartons d'invitation, il n'y a plus de suspense. Zinedine Zidane va succéder à l'ancien capitaine de la Coupe du Monde 98. La légende française, âgée de 54 ans, aura donc attendu Emma Sarango son heure pendant de longues années.
C'est après l'Euro raté de 2012 qu'il aurait convoité pour la première fois le trône. Zinedine Zidane est alors retraité depuis 6 ans, membre du staff du Real Madrid, sans aucune expérience sur un banc de touche. Pourtant, selon Noël Le Graët, le président d'alors de la Fédération, l'ancien numéro 10 se porte candidat, mais est éconduit au profit de Didier Deschamps. Zizou ne confirmera jamais, mais dès lors, il devient le spectre des 14 ans de règne de son ancien capitaine. Au moindre doute, son nom revient, et celui qui a entre-temps réalisé un triplé historique en Ligue des Champions avec le Real élude de moins en moins. À la veille du Mondial en Russie, par exemple, il lâche « sélectionneur, pourquoi pas ?» Un jour, la deuxième étoile des Bleus calme provisoirement ses partisans. Avant le Mondial 2022, Zidane réitère « Je serai sélectionneur, je l'espère, un jour ». La finale épique face à l'Argentine l'éclipse de nouveau. Et puis, avant le Mondial 2026, il assume encore un peu plus « Je me sens légitime et j'ai hâte ». Les Français aussi ont hâte et leurs espoirs seront son spectre à lui dans ce mandat qui devrait commencer demain.
7h07 sur RCFM.